Qui a dit que le livre était mort ? Certainement pas les élèves de CM2 de l'école de Riom de la classe de Madame Sandrine Dubos. Le jeudi 19 octobre, il recevait Christian Grenier, auteur de livres pour enfants comme Les Robinsons de la Galaxie et Virus Live ou La mort des livres. Christian Grenier nous parle des livres, de ceux qu'il a écrits, de ceux des autres, de ceux qu'il lit et qu'il est en train de lire. Lecteur passionné et auteur passionnant, il nous donne envie de lire.
Bonjour Monsieur Grenier, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre classe. Nous avons lu plusieurs de vos romans, Virus Livre 3 ou La mort des livres, Les Robinsons de la Galaxie, Le passager de la comète et nous attaquons la série des logiciels.
Avez-vous des enfants et des petits-enfants ?
Eh bien oui, je suis d'ailleurs venu avec mon épouse et nous avons deux enfants qui sont très grands puisqu'ils sont nés en 1968 et 1970. Donc ils ont 47 et 49 ans et ils sont mariés et ils ont des enfants. Donc nous avons un garçon et une fille qui sont mariés et eux-mêmes ont des enfants, ils n'ont que des filles. Et nous avons quatre petites filles qui s'appellent Estelle, elle a 21 ans, Camille, elle a 17 ans. Et notre fille a deux filles aussi, Laura, qui a 13 ans, et Emma, qui a 11 ans. Donc nous avons en effet deux enfants et quatre petits-enfants, uniquement des petites filles.
Où habitez-vous ?
Eh bien, depuis près de 30 ans, nous habitons désormais dans le Périgord, donc à 250 km d'ici, dans un village qui s'appelle Le Flet, entre Bergerac et Sainte-Foy-la-Grande. Mais pendant très longtemps, nous avons habité... Moi, je suis né à Paris, donc j'ai habité Paris. Et puis nous nous sommes mariés et nous avons habité très longtemps Paris et la région parisienne jusqu'en 1990. Et désormais, nous habitons le Périgord.
Voyagez-vous beaucoup ?
Ah, la réponse est un peu complexe parce que oui, je voyage beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que voyager beaucoup ? Autrefois, je voyageais peu et nous voyagions peu. Mais depuis que je suis écrivain, je suis parfois invité, en effet. Alors en France, énormément. C'est-à-dire que je me déplace un peu de partout en France, dans tous les départements, mais aussi outre-mer. Bon, je vais parfois aussi en Guadeloupe ou sur l'île de la Réunion, et c'est loin, c'est à 9000 km d'ici. Et puis depuis une quarantaine d'années maintenant, je suis invité parfois à l'étranger, c'est vrai. Et c'est uniquement à cause de mon métier. Je suis invité à l'étranger et je me déplace et je voyage uniquement parce qu'on me demande de venir en Suède, en Allemagne, en Espagne, ou parfois très très loin. Récemment, il y a 2 ou 3 ans, nous avons fait un long séjour au Cambodge, au Vietnam, à Hanoï, à Phnom Penh, et à Bangkok aussi, en Thaïlande. Et il m'arrive donc effectivement de voyager. Mais je ne voyage pas pour trouver des idées. Il m'arrive d'avoir des idées après avoir voyagé, c'est vrai. Mais je ne voyage très loin en général que parce que je suis demandé par des lycées français à l'étranger. Voilà les raisons de mes déplacements. Sinon, dans la vie quotidienne et pour mon loisir, pour mes loisirs, je ne voyage que très très peu en réalité. Je me déplace en Allemagne où nous avons des parents, donc on va régulièrement en Allemagne. Mais à part ça, nous restons depuis 30 ans, nous restons très volontiers dans notre village, surtout l'été. Alors l'été, c'est le contraire. Nous recevons beaucoup d'amis, et j'ai des amis allemands, bien sûr, hollandais, autrichiens, et nous avons beaucoup de visites l'été. Nous ne voyageons pas, et quand on me demande si nous avons passé de bonnes vacances, je précise que nous n'avons pas passé de vacances cet été, mais que les gens qui sont venus chez nous ont, je l'espère, passé de bonnes vacances, parce qu'on vient très souvent chez nous et parfois de très loin.
Quel livre vous avez le plus marqué et lequel préférez-vous ?
Alors, parmi tous les livres que j'ai lus, il m'est bien difficile de dire lequel m'a le plus marqué, parce que, au fil de ma vie, certains livres m'ont beaucoup marqué. Le tout premier, sans doute, a été Le Petit Pioui, qui est un tout petit album, une histoire de quelques pages, que j'ai lu quand j'avais 6 ans. C'est sans doute mon premier livre, que d'ailleurs j'ai dû lire avant de savoir lire, puisqu'on a dû me le lire. Et c'est une histoire qui m'a bouleversé. Et qui a, je crois, marqué toute mon enfance. Je pourrais vous la raconter, mais elle est assez exemplaire. Et comme elle a marqué toute ma vie, je vais vous la raconter. C'est l'histoire d'un chien, c'est le plus petit chien du monde. Et il est la vedette d'un cirque, et bien sûr, il est applaudi, il est admiré, il tient dans le creux de la main. Les spectateurs et le public est ravi, il est une vedette. Et un jour, il arrive un grand malheur, le petit Pioui se met à grandir. Et bientôt, il atteint la taille d'un chien ordinaire. Alors, il n'intéresse plus personne, il n'est plus du tout applaudi. Au cirque, il n'a plus aucun rôle, on le chasse. Et tout le monde pleure parce que tout le monde aimait bien le petit Pioui. Alors les trapézistes, le clown, tout le monde pleure au cirque, mais on renvoie le petit Pee-wee. Et c'est dramatique. Et moi, à ce moment-là, avec mes 6 ou 7 ans, je me mettais à pleurer. Et puis, la suite du livre est plus intéressante, parce que le petit Pee-wee, qui est devenu un chien ordinaire, continue de grandir. Il devient grand, grand, il devient énorme, il devient le plus grand chien du monde. Et là, il revient dans le cirque où il est accueilli à bras ouverts et il redevient à nouveau célèbre. Et cette histoire m'a marqué, je crois, parce que mes parents étaient comédiens. Moi, j'ai grandi dans le milieu du théâtre. Je voulais faire du théâtre, pas pour devenir célèbre, mais pour imiter les gens que j'admirais beaucoup, non seulement mes parents, mais pas mal de comédiens que mes parents fréquentaient. Et je crois que très longtemps, j'ai rêvé d'être le petit Pee-wee, même si je savais qu'il y aurait peut-être un moment difficile où je ne serais plus petit et je ne serais pas encore grand. Voilà. Ça, c'est le livre qui m'a vraiment marqué pendant les premières années de ma vie. Ensuite, il y a eu les romans d'aventure. Je crois qu'il y a eu Robinson Crusoe, parce que j'habitais Paris et que pour moi, vivre sur une île avec, en pleine nature, tout seul, c'était une sorte de rêve, un fantasme. Ensuite, il y a eu L'île au trésor. Vous le remarquerez, ces romans d'aventure, il y a la mer, il y a des îles, hein, on est sur l'océan. Et ça, ce sont les grands romans d'aventure qu'on écrivait autrefois. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à apprécier les grands romans d'aventure contemporains. Alors, les grands romans d'aventure humaines. J'ai beaucoup aimé, les romans animaliers de Jack London, hein, comme Croc-Blanc ou L'appel de la forêt, mais aussi et surtout des romans comme Martin Eden. Et là, j'entrais déjà, sans le savoir, dans un domaine qu'on appelle la science-fiction. J'ai aussi dévoré les romans de Jules Verne quand j'avais à peu près votre âge, à 10 ans, 12 ans. J'ai lu une quinzaine de romans de Jules Verne. Jules Verne en a écrit 62, hein, et je n'ai pas encore aujourd'hui lu tous les romans de Jules Verne. Et puis plus tard, devenu adulte, j'ai été fasciné par un auteur qui reste mon auteur préféré, c'est Gustave Flaubert. Et mon récit préféré, parmi tous les récits que je connais, c'est sans doute l'un des plus courts récits de Gustave Flaubert, que vous lirez peut-être quand vous serez au collège. C'est un texte de 40 pages qui s'appelle « Un cœur simple ». Et c'est l'histoire d'une servante. C'est toute l'histoire de cette servante. Et je ne peux plus lire aujourd'hui cette histoire parce que quand je finis de la lire, et parfois à haute voix, parce qu'il m'arrive de la lire à haute voix, eh bien je ne peux pas prononcer les dernières phrases parce que je sanglote. C'est une histoire qui me bouleverse jusqu'aux larmes. Comme quoi les livres, ça peut être extrêmement puissant. Les livres pour moi sont des moteurs d'émotion. Et rien ne peut plus m'émouvoir qu'un livre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que je suis écrivain, donc ça doit être une des raisons pour lesquelles les livres peuvent provoquer de l'émotion en moi. Voilà. Voilà donc les livres qui m'ont marqué. Il y en a beaucoup, hein, et il y en a encore aujourd'hui. J'ai des livres qui me bouleverse, ça arrive encore.
Quel genre de livres lisez-vous actuellement et quels livres lisez-vous lorsque vous étiez enfant?
Alors, on va commencer par les livres que je lisais quand j'étais enfant, mais en même temps, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, c'était les romans d'aventure. Je n'étais pas tellement conte, je n'étais pas tellement légende, même si je me suis passionné pour la mythologie et la Grèce, mais j'aimais l'aventure. Et pour moi, l'aventure, c'était avant tout l'océan, et puis peu à peu, l'aventure, c'est devenu l'aventure spatiale. Parce qu'à 12 ans, c'est à peu près votre âge, j'ai vécu en direct la conquête de l'espace. Puisque le 4 octobre 1957, mes parents m'ont réveillé en me disant que dans la nuit était survenu quelque chose d'extraordinaire. Les Russes, les Soviétiques, à l'époque, on dirait les Russes aujourd'hui, avaient envoyé un objet dans l'espace qui s'appelait le Spoutnik. C'était le premier satellite artificiel. Et là, j'ai compris que l'aventure désormais sur la Terre, à la fin des années 50, c'était plus l'océan. C'était plus le pôle sud, c'était plus la conquête des îles ou des continents, c'était sans doute la conquête de l'espace. Et je pense que un mois plus tard, ça a été l'envoi dans l'espace d'une chienne, Laïka. J'ai beaucoup pleuré quand elle est morte en orbite autour de la Terre. On était le 4 novembre 1957. Ensuite, j'ai suivi Gagarine, qui est le premier homme à avoir fait le tour de la Terre. J'ai d'ailleurs écrit son histoire plus tard. Et puis, bien sûr, j'ai suivi, étant jeune adulte, et même adulte, en 1969, l'atterrissage de Armstrong et Aldrin sur la Lune, dans la nuit du 20 au 21 juillet. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que les livres que j'ai lus à partir de cette époque-là, très souvent ont été des romans de science-fiction et des romans qui parlaient de la conquête de l'espace. Donc voilà, j'avance dans le temps, Alors en même temps, j'ai fait des études classiques. Hein. J'ai donc lu les grands classiques et notamment les grands romanciers du 19e siècle. Hein. Flaubert, Zola, Balzac, Stendhal, Victor Hugo, Maupassant. Je pourrais vous en citer comme ça, mais vous les étudierez au collège. Et ce sont encore les livres que je lis. Alors en ce moment, c'est très bizarre, vous me posez la question. Hier encore, j'étais dans Les Dieux ont soif de Anatole France, c'est un roman historique sur la Révolution française. J'étais dans Diderot. Alors Denis Diderot, c'est un auteur du siècle... du 18e siècle, donc j'étais dans Jacques le Fataliste, Les Bijoux indiscrets, La Religieuse, c'est des romans du 18e siècle. Cette littérature classique, j'ai été prof de français, elle me plaît encore, et je puise dans les grands maîtres d'autrefois des leçons de littérature et des leçons d'écriture. Je me nourris avec les romans des grands écrivains de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et c'est ce que je lis, effectivement. Je lis des romans aussi, des romans d'aujourd'hui. Il y a Jean-Baptiste Panafieux là, qui est là. Je suis en train de lire un essai sur la séduction. Séduire comme une biche, c'est ce que je lisais ce matin encore, tu vois. Donc je lis non seulement les auteurs qui sont morts, mais aussi les auteurs vivants, les auteurs que je fréquente et avec lesquels je déjeune. C'est un grand avantage. Les écrivains rencontrent d'autres écrivains et les écrivains se lisent entre eux. Je lis les livres de mes amis. Nous avons dîné hier avec une demi-douzaine d'écrivains. Et je peux te dire que j'ai lu des livres de ces écrivains-là. Il y avait Éric Simard, il y avait Carole Trébor, on était plusieurs, Jean-Baptiste de Panafieux aussi. Et je lis les livres de mes amis, bien sûr, bien sûr. Et je lis les livres dans tous les genres, c'est-à-dire que je ne lis plus que de la science-fiction. Il y a eu une époque où je lisais surtout de la science-fiction. Je lis des romans policiers parce que j'en écris et parce que j'ai beaucoup d'amis qui écrivent des romans policiers. Mais je lis aussi des romans historiques, des essais, des biographies. Toutes sortes de récits. Et je lis des revues, notamment beaucoup de revues scientifiques. Parce que comme j'écris dans des domaines scientifiques, non seulement de la science-fiction, mais ce que je pourrais appeler des thrillers technologiques, des choses comme L'Ordinateur ou Assassin.net ou Apocalypse, ces romans que j'écris font référence à l'informatique, au climat, aux océans, au réchauffement climatique. Et donc, je me documente beaucoup. Donc, je puise aussi mon imaginaire dans la documentation scientifique. Et je lis des revues. Et je suis de très très près l'actualité. Mais notamment l'actualité dans les livres et les revues, plus que l'actualité à la télévision. C'est vrai. Pour moi, l'écrit est plus important que l'image. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai.
Possédez-vous beaucoup de livres ? Combien lisez-vous de livres par mois ?
Ah, alors il y a deux questions. Oui, je possède beaucoup de livres. Et je crois que je possède beaucoup de livres parce que j'ai été privé de livres étant jeune. Autrefois, les livres coûtaient cher. Mes parents m'offraient un livre pour Noël, pour mon anniversaire, ou quand j'avais une bonne note. Et ça faisait pas beaucoup de livres, tout ça, dans l'année. Hein. Donc j'ai été privé de livres. Et aujourd'hui, je me venge, je me rattrape. Je compense le manque de livres que j'avais quand j'avais votre âge. Et je me gave de livres et j'achète des livres. Et mon épouse souvent me reproche d'acheter 10 livres et d'en lire 4. Alors évidemment, ça fait beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Du coup, j'ai pas mal de livres chez moi. Combien ? Allez, je pense, honnêtement, je les ai estimés, parce que j'ai compté mes livres, effectivement. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Donc je pense, c'est entre 15 et 20 000. Donc j'ai une vraie bibliothèque chez moi. Oui, entre 15 et 20 000. Oui. Alors on me demande souvent, et vous avez tout lu ? Bien sûr que non. J'ai des encyclopédies, j'ai des dictionnaires. Je ne vais pas lire un dictionnaire de la lettre A à la lettre Z. J'ai l'intégrale de Victor Hugo, ça fait 50 volumes. Je n'ai pas lu tout Victor Hugo, bien sûr que non. J'ai beaucoup d'intégrales de nombreux auteurs. Je n'ai pas tout lu, mais je peux m'y référer. J'aime beaucoup avoir des romans, des récits de nombreux auteurs. Alors par contre, j'ai tout Flaubert. Mais non seulement j'ai lu tout Flaubert, mais j'ai lu toute la correspondance de Gustave Flaubert. Et j'ai lu et relu Madame Bovary 4 ou 5 fois, Un cœur simple... Bon, Salambeau, l'éducation sentimentale, plusieurs fois, je relis souvent des livres aussi. Alors oui, je possède beaucoup de livres. J'ai plusieurs bibliothèques chez moi, dans plusieurs pièces, j'ai une grande maison. Alors j'ai une grande maison pour y mettre tous les livres que j'ai accumulés, en effet. Ouais. Et combien de livres je lis ? Je dirais qu'en moyenne, je lis 4 heures par jour, à peu près. C'est normal, les écrivains lisent, hein. Les compositeurs écoutent de la musique, les gens de théâtre vont au théâtre, hein. Donc ça fait partie. Les peintres vont voir des expositions, donc c'est normal pour un écrivain de lire, me semble-t-il. On n'imagine pas un écrivain qui ne lise pas, c'est pas possible. Et on me demande des moyennes, alors combien lisez-vous de livres par mois ? Par mois, peut-être 10 livres, 15 livres, je lis 3 livres par semaine, 4 livres, environ, dans l'année, en général, c'est entre 120 et 150 livres. Mais je précise que c'est... Donc je suis un grand lecteur. Il paraît que là, on arrive dans les grands lecteurs. Mais ça fait partie de mon métier. J'ai été lecteur. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour Attier, pour Magnard, pour Gallimard, et j'étais lecteur. C'est-à-dire que j'étais payé pour lire des manuscrits. Ça faisait partie de mon métier. On ne vous paye pas pour lire. Bon, maintenant, on ne me paye pas pour lire non plus. Quand je relis Madame Bovary pour la 3e fois, ou pour la 10e fois, on ne va pas me payer. C'est par plaisir, bien sûr. Je lis beaucoup de livres aussi pour la jeunesse, et ces livres sont courts. Il y a des livres qui font 80 pages, 150 pages. Ce ne sont pas des livres importants sur le plan de la densité. Il y a des livres très importants. Le bébé tombé du train de Josseland, ça fait 15 pages. C'est un chef-d'œuvre. Mais bon, en 4 minutes, il est lu. C'est vrai aussi. Donc, je lis aussi beaucoup de livres parce que certains de ces livres sont courts. Je précise que quand je lis un Ken Follett, par exemple, qui fait 1000 pages, il me faut parfois la semaine pour le lire, bien sûr. Mais je lis beaucoup, oui, ça me semble normal. J'ai besoin de livres pour vivre. C'est une nourriture qui me semble indispensable, les livres. Et j'ai beaucoup de provisions de livres à la maison, oui, c'est vrai.
Comment devient-on auteur et quelles études avez-vous faites ?
Alors, ce sont deux questions séparées. Et je trouve tout à fait judicieux de les avoir séparés, parce que je vais commencer par les études. J'ai fait des études pour devenir prof de français. Alors évidemment, les études que j'ai faites, c'est le baccalauréat. Bon, je précise que je suis passé par une école qui formait les enseignants, l'école normale. Donc j'ai passé des examens, une licence, un DEA. Tout ça n'est pas très intéressant. Ça n'a rien à voir avec le métier d'écrivain. J'ai passé des examens pour devenir professeur de français. C'est pour ça que j'ai fait des études. Mais en même temps, je suis devenu écrivain pour des raisons totalement différentes. Quand on envoie un manuscrit à un éditeur, l'éditeur ne va pas vous demander « Quel âge avez-vous ? Avez-vous déjà publié un livre ? Quel est votre niveau universitaire ? Vous avez une licence de lettres ?» L'éditeur s'en moque complètement. Comment je suis devenu auteur ? En écrivant. Quand j'étais jeune, très jeune, quand j'avais 8 ans, j'écrivais. Voilà un récit que j'ai écrit à l'âge de 8 ans et demi. Il est là. C'est écrit au crayon, sur un carnet. Et souvent, on est très étonné qu'à 8 ans, on puisse écrire. Mais bon, j'avais rien d'autre à faire. Imaginez que je vivais au 5e étage d'un immeuble, dans un 2 pièces de 28 mètres carrés, à Paris. Donc, pas de verdure, pas d'espace, pas de petits copains. J'ai une sœur qui a 16 ans de plus que moi. J'étais seul à la maison. Pas de télévision, ça n'existait pas. Pas d'ordinateur, c'était pas inventé, si j'ose dire. Pas de téléphone portable, même pas le téléphone. Mes parents n'avaient pas le téléphone. Enfin, l'horreur absolue, à vos yeux, c'est là. Comment peut-on survivre ? J'ai survécu, et j'avais une nourriture, j'en avais même deux. Ma première nourriture, c'était le théâtre. J'ai été au théâtre, paraît-il, pour la première fois à 9 mois. J'avais 9 mois. Mes parents m'ont emmené au théâtre. Alors, mes parents m'ont pas emmené au théâtre à 9 mois pour que je voie la pièce, c'était pour pas me laisser tout seul à la maison. Bon, ça va de soi. Mais j'allais 3 fois par semaine au théâtre. À votre âge, j'étais au théâtre très souvent. Un soir sur deux, j'étais au théâtre. Et puis, ma deuxième passion et ma deuxième occupation, c'était les livres. Je lisais, effectivement. J'avais rien d'autre. Aujourd'hui, je suis très étonné que vous lisiez encore. J'en suis ravi. Parce que vous avez 1000 autres possibilités de vous distraire. Les copains, les copines, les SMS, les smartphones, la télé, les jeux vidéo. J'en passe. Et il y a encore des livres. C'est miraculeux. C'est extraordinaire. Ça veut dire que les livres sont quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, pour que malgré toutes les sollicitations dont vous êtes l'objet, le livre a encore de l'importance, au point que non seulement on arrive à vous en faire lire, mais que parfois vous preniez même plaisir à lire. Je suis stupéfait, et ravi. Donc ça c'est pour répondre à la question comment devient-on auteur ? On devient auteur d'abord en lisant, et ensuite, faute d'avoir assez de livres à ma disposition, vous l'aviez compris, je me suis mis à me fabriquer moi-même mes livres. Ma mère me disait souvent « Tu es un enfant gâté. Moi, pendant la guerre, j'avais même pas de poupée. J'ai grandi sans jouets et toi, tu as des jouets. » Et ma mère m'expliquait qu'elle fabriquait ses poupées elle-même avec un bâton et des chiffons. Ma mère a grandi comme ça. Elle n'a pas eu de poupée. Elle se fabriquait des poupées avec des vieux chiffons et des bâtons. Bon, eh bien moi, je me suis fabriqué les livres que j'aurais voulu lire. Les romans que je ne pouvais pas lire et que j'avais envie de lire, je me suis dit « Comme ils n'existent pas, c'est toi qui vas les écrire. » Et j'ai commencé à écrire mes histoires, comme ça. Et à 15 ans, 18 ans, avec des cahiers et avec mon temps libre. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même, on en a du temps libre. Aujourd'hui, il paraît que vous passez en moyenne 5 heures devant un écran. Non, c'est une statistique. En moyenne, j'ai pas dit que c'était toi, 5 heures devant un écran. Moi, à votre âge, je passais pas 5 heures devant un écran, puisqu'il n'y avait pas d'écran. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de tablette, il n'y avait rien. Ces 5 heures, je les passais à lire ou à écrire. Parce que très vite, je me suis mis à écrire, donc sur des cahiers. Et puis, à l'âge de 20 ans, je me suis marié avec cette dame qui est au fond de la salle. Et elle me prêtait des livres, et nous échangions, et puis je lui montrais mes cahiers, si bien qu'elle m'a offert une machine à écrire, et qu'avec cette machine à écrire, je me suis mis à taper à la machine les livres que jusque-là j'écrivais au stylo sur des cahiers. Et quand un livre est tapé à la machine ou imprimé, parce que maintenant j'ai un ordinateur, ça va de soi, on peut montrer le texte à un éditeur. Donc j'ai envoyé mon premier manuscrit, qui faisait 700 pages, j'avais de l'entraînement, j'écrivais. Et donc j'ai tapé un manuscrit qui s'appelait Ayo Terre Invisible, et je l'ai envoyé à un éditeur. Et le deuxième éditeur qui l'a eu en main m'a dit « je prends ». J'étais stupéfait, mais du coup j'étais devenu écrivain. Ce qui était faux, j'étais prof de français, et je n'ai pas quitté mon métier de prof pour devenir écrivain. Mais j'ai continué d'écrire, de publier des livres, j'ai eu de la chance, j'ai décroché des prix littéraires un petit peu quand même. Et donc peu à peu, je suis entré dans le monde de l'édition, on m'a embauché, je suis devenu chez Attier lecteur, correcteur, rewriter, c'est un métier un peu particulier, je pourrais vous l'expliquer si vous me posez la question. Et puis je suis même devenu directeur littéraire chez Gallimard, qui m'a demandé de créer une collection qui s'appelait Folio Junior Science Fiction. Voilà. Donc quand on entre en littérature, c'est un peu ça, on commence par avoir des livres publiés, et puis parfois on décroche un ou deux prix, et puis on est embauché par un éditeur ou par plusieurs éditeurs. Voilà comment on devient auteur. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme. C'est le parcours, je dirais, j'ai un parcours assez classique d'auteur. Simplement, maintenant, j'ai un certain âge, j'ai publié beaucoup de livres. Et puis, j'ai été journaliste aussi. C'est vrai que j'ai été embauché par une revue. J'ai fait de la bande dessinée. J'ai aussi été embauché par la télé pour faire des scénarios pour la télévision. Donc, les écrivains, parfois, font des articles, font de la critique, font des scénarios. Et j'ai touché un petit peu à tout en tant qu'écrivain. Voilà comment on devient auteur.
Qui vous a incité à devenir un auteur ?
Je crois que j'ai eu des modèles. Et les modèles, ce sont les auteurs que j'ai lus. Tout à l'heure, j'évoquais Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Jack London, je vous en ai parlé, qui encore ? Jules Verne. Bien sûr, c'est des auteurs qui me fascinaient. Et les romans que j'écrivais à cette époque, quand j'avais votre âge, ou à 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'était des romans qui étaient très inspirés par ces auteurs que j'admirais, que je lisais avec plaisir. Et que d'une certaine façon, j'essayais d'imiter en écrivant à mon tour. Donc je suivais des modèles. J'avais des idoles qui étaient en réalité non pas des footballeurs ou des comédiens. Si, j'avais d'autres idoles qui étaient des comédiens, mais qui n'étaient pas des comédiens de cinéma, qui étaient des comédiens de théâtre. J'avais Robert Hirsch, Jacques Charon, enfin des gens qui étaient à la Comédie Française. Mais les auteurs que je lisais, je voulais faire comme eux. Et voilà comment j'ai eu des écrivains que j'admirais et qui ont été mes modèles. Et ce sont eux, sans doute, qui m'ont poussé, sans le savoir, à devenir écrivain. Ils étaient morts, hein. Personne n'a frappé à ma porte en me disant « Tu veux pas devenir écrivain ?» Personne. Je ne fréquentais pas les écrivains quand j'avais votre âge. Pour moi, les écrivains étaient tous morts, de toute façon. Tous ceux que je lisais étaient morts. Alors j'ai croisé, comme ça, deux ou trois écrivains célèbres. Il y avait Paul Claudel, il y avait Henri de Monterland. C'était des gens très sévères, que mon père appelait maître quand il les rencontrait, il leur serrait la main. C'était des gens intouchables, c'était des gens, je n'avais pas du tout envie de leur ressembler, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Non, je ne me voyais pas du tout dans la peau d'un écrivain.
Si vous n'étiez pas écrivain, quel métier exerceriez-vous ?
Alors disons que j'ai un métier, hein. Mon premier métier, mon vrai métier, mon seul métier à l'origine, c'est prof. J'ai fait des études pour devenir enseignant. Je suis devenu prof de français, j'ai enseigné pendant 12 ans. À temps complet, puis ensuite à temps partiel. Et là, j'ai des diplômes pour devenir professeur, hein, donc j'aurais même pu, étant devenu écrivain à part entière, redevenir enseignant. Mais si je n'étais pas écrivain, je serais sans doute comédien. Vous l'avez compris, mes parents travaillent dans le théâtre, toute ma famille travaille dans le théâtre, et quand, à 12 ans, mon père m'a demandé « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», ma réponse a été spontanée, immédiate et instinctive. J'ai dit « bah, je veux faire du théâtre comme toi, je veux devenir comédien ». Ce à quoi mon père m'a répondu, « Ah non, dans la vie, mon fils, tu feras tout ce que tu voudras, sauf du théâtre. Le théâtre, c'est pas un métier. » Alors j'ai rétorqué, bah, c'est quand même bizarre parce que maman, elle a été comédienne, toi, tu as été comédien, maintenant tu es régisseur. Ma tante, mon oncle, toute ma famille était dans le théâtre, même ma sœur travaillait dans le théâtre. Et mon père a été inflexible et m'a dit, tu ne feras pas de théâtre. Alors j'ai essayé de tricher. À un moment donné, il y a Raymond Rouleau qui embauchait des jeunes gens. J'avais 14 ans pour jouer Carmen et pour chanter. Je faisais de la musique aussi. Mais seulement, il a vendu la mèche en quelque sorte parce qu'il croisait mon père, Raymond Rouleau, que vous ne connaissez pas. Mais voilà, c'était les années 60. Hein. Et donc, il a fini par savoir que je m'étais présenté, que j'avais été retenu. Et il s'est fâché. Il m'a dit non, il n'est pas question que tu fasses du théâtre. Donc voilà, je me suis reporté un peu sur la musique parce que j'aimais beaucoup la musique. J'ai fait du piano, mais j'ai fait du piano pendant 3 ans parce que, à l'âge de 14 ou 15 ans, j'avais grandi et j'avais encore un lit d'1m20 ou d'1m40, je ne sais pas, mes pieds dépassaient et il a fallu vendre le piano parce que mes parents m'ont dit on va acheter un lit et puis il faut qu'on se débarrasse d'un meuble. Donc moi, j'avais plutôt visé le buffet de la salle à manger, ma mère n'était pas d'accord. Donc il a fallu enlever le petit lit que j'avais et puis acheter un grand lit et du coup, il fallait enlever un meuble et ça a été le piano. Voilà comment je ne suis pas devenu un grand pianiste, parce que sinon j'aurais bien voulu devenir pianiste. Ou alors chef d'orchestre, mais j'étais nul en solfège, et donc j'avais aucune chance de devenir chef d'orchestre ou même pianiste. Donc voilà comment je suis devenu prof, et puis étant prof et écrivant, avec des livres de plus en plus vendus finalement, je me suis aperçu, et Annette, mon épouse, s'est aperçue, 20 ans plus tard, que mes droits d'auteur me permettraient sans doute de vivre. Et en 1990, j'avais quand même 45 ans, Annette m'a dit, et si on s'en allait? Et si on partait en province? Et si tu abandonnais la télévision? À l'époque, j'étais scénariste pour la deuxième chaîne, je faisais un grand dessin animé qui s'appelait Les Mondes Engloutis. Et puis, ça m'avait pris 2 ans de ma vie et j'avais beaucoup souffert, en quelque sorte, parce que c'était très prenant. Et donc, nous avons déménagé et j'ai choisi de ne plus faire qu'écrire. Donc, depuis 25 ans, 27 ans, j'ai quitté tous mes autres métiers pour me consacrer uniquement à l'écriture.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse avec la complicité de Carole Lagarza et de Claire Bigeot pour l'habillage sonore en partenariat avec l'école de Riom et l'énergie sans faille de Sandrine Dubos, l'institutrice des élèves de CM2. Retrouvez cette interview en 3 parties sur le site ondecourte.fr. Cette émission est placée sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Tous les sons qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placés sous licence libre.